When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Week-end. Nous allons revenir sur l'actualité principale de la journée, les conséquences de l'attaque iranienne sur le territoire israélien, bien évidemment, à partir de ce que vous avez pu voir dans nos différentes émissions tout au long de la journée. Et pour vous accompagner, pour analyser, décrypter cette actualité autour de ce plateau ce soir, Gabriel Cluzel, ma chère Gabriel, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Nathan Devers est également avec nous, bonsoir Nathan.
Bonsoir Olivier.
Elliot Maman nous accompagne également, bonsoir Elliot.
Bonsoir.
L'Iran, donc le Hezbollah libanais, les Houthis du Yémen ont attaqué Israël donc hier soir, vous l'avez vécu en direct sur notre antenne, une opération baptisée Promesse Honnête. Cela fait suite à une frappe contre le consulat iranien à Damas, c'était le 1er avril, que l'Iran attribue à Israël. L'Iran qui a donc lancé plus de 300 drones et missiles la nuit dernière. Selon ça, la majorité des drones et des missiles a été neutralisée par Israël, mais également par ses alliés. Il s'agit de la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter Gilles William Golnadel. Il témoignait ce soir dans l'émission Face à Face, puisqu'il était en Israël cette nuit au moment des faits. Écoutez-le.
Je dors juste à côté d'un abri dans mon appartement, et vraiment juste à côté. Mais il n'était pas question de pouvoir trouver le sommeil, puisque le missile pouvait arriver d'un instant à l'autre. Donc il n'était non plus pas question dans mon esprit de pouvoir repartir. Le lendemain, je pensais que j'allais être vraiment, j'allais devoir rester. Ce qui, entre nous, soit dit, si ça s'était mal passé, je dis franchement que je n'étais pas mécontent de rester de ce point de vue-là. Bon, et puis, contrairement à tout ce, bon, j'échangeais avec mon fils qui connaît ça assez bien. Contrairement à ce que l'on a craint, 99%. Des missiles ont été arrêtés. Donc, ça change tout. Ça change tout. Maintenant, ne me demandez pas si j'étais dans le désespoir. Je n'étais pas dans le désespoir. Je n'étais pas dans la crainte. Je n'avais aucune crainte. J'étais dans la colère. J'étais dans le souci du lendemain pour le pays et pour les miens. Mais rien à voir de ce point de vue-là, rien à voir avec le 7 octobre. Parce que là, on savait qu'il y avait une armée, on savait qu'il pouvait y avoir une riposte, on savait ce qui se passait. C'est un anti-7 octobre, d'une certaine manière.
Gabriel Cluzel, c'est vrai que tout au long de notre antenne, nous avons entendu de multiples témoignages aujourd'hui qui allaient dans le sens de celui de Gilles William Golnadel. Une population, on l'entendait, eh bien, qui restait déterminée, qui était debout, qui n'a pas eu peur. On pourra souligner d'ailleurs tout à l'heure la puissance de la défense israélienne avec le dôme de fer. Voilà, une population israélienne debout et déterminée finalement au lendemain de cette attaque.
Oui, c'est assez impressionnant pour nous parce qu'on a coutume finalement de considérer Israël comme l'État occidental du Proche-Orient, si j'ose dire. Et c'est vrai que nous autres occidentaux ne connaissons plus ce genre de panique et qui ont pu être de situations de panique. Même si tout le monde n'était pas paniqué, qui ont pu être le quotidien jadis de nos anciens. Mais pour nous, c'est une situation absolument apocalyptique que nous n'imaginons pas sur notre sol. Donc c'est assez impressionnant de les voir et de fait garder leur calme. Et je pense qu'ils savent que c'est important parce que c'est dans un territoire territoire, dans une zone géographique où culturellement c'est de rapport de force. Donc ce serait montrer sa faiblesse que d'être effrayé. Et le fait est que malgré toute la force de frappe des Iraniens, Israël a, avec son dôme de fer, a résisté de façon assez impressionnante.
Et le dôme de fer, on va y venir dans un instant. Mais avant, Elliot Maman.
Oui, parce que d'ailleurs, peut-être une précision qui montre précisément la singularité de ce qui s'est passé hier soir. En réalité, le dôme de fer n'a presque pas servi. Hein. Le dôme de fer sert à intercepter les petits obus et les mini-roquettes que envoient les Palestiniens, donc le Hamas et le djihad islamique depuis Gaza. En l'occurrence, c'est d'autres systèmes antimissiles qui ont servi la fronde de David principalement et les diverses générations du système antimissile Arrow que Israël détient, mais également des chasseurs qui, presque à main nue, si je puis dire, ont décollé et sont allés abattre des drones dans les airs. Donc, preuve de la singularité et de la gravité de ce qui s'est passé hier soir, même le dôme de fer aurait été plutôt impuissant face à la force de frappe iranienne en l'occurrence.
Il y a eu la supériorité technologique donc israélienne, mais pas seulement, vous venez de le, et c'est important de
absolument
le préciser.
Les chasseurs israéliens, américains et en partie d'autres pays occidentaux.
Il y a eu donc effectivement la riposte des alliés. Cette interrogation d'ailleurs, la République islamique a largement communiqué en amont de cette attaque, nous en parlions, les États-Unis ont alerté également. Tout cela, on l'imagine bien, en se doutant qu'Israël ne se laisserait pas faire par la suite. Alors, est-ce qu'au fond, c'est une opération suicide ? Le général Bruno Clermont revenait sur cette attaque cet après-midi, écoutez-le.
Quand même, quand on tire 110 missiles balistiques, c'était le plus menaçant, les 110 missiles balistiques, c'est comme là, on cherche quand même un objectif militaire. Donc, soit ils ont sous-estimé la capacité d'interception à la fois des alliés mais également des Israéliens, donc une erreur d'appréciation. Ce qui est évident, c'est qu'ils peuvent faire de la communication intérieure de l'Iran, mais c'est un échec. Enfin, on ne peut pas avoir un plus grand échec que de tirer 350 drones, missiles de toutes sortes et arriver avec le fait qu'il y a pratiquement très peu de dégâts en Israël. Je pense que Netanyahou est en une position difficile. Parce qu'il se sent obligé de faire quelque chose. Il ne peut pas rester, il peut pas laisser impuni une attaque de 350 missiles venant de l'Iran, alors que l'Iran le désigne comme la destruction d'Israël vis-à-vis de son opinion publique. Mais d'un autre côté, les Américains ne sont pas d'accord. Et puis d'un autre côté, il a surtout quand même, il faut qu'il s'occupe de Gaza, de la bataille de Rafah, parce que c'est loin d'être terminé l'affaire de Gaza.
Alors les hypothèses de riposte, nous allons y venir dans un instant, mais peut-être Nathan Devers pour revenir sur cette attaque militaire. L'intention, nous l'avons vécue ensemble d'ailleurs hier soir, minute par minute. L'Iran qui annonce que des drones ont décollé, ce qui laisse le temps finalement à Israël de préparer sa défense, et qui avait préparé sa défense d'ailleurs depuis plusieurs heures, plusieurs jours même. Comment est-ce que vous décryptez finalement cette attaque iranienne ?
Je pense qu'il y avait avant tout, dans les populations des deux côtés, aussi bien côté iranien qu'israélien, ce que j'appellerais un effet Julien Gracq. Vous savez, Julien Gracq a écrit ce roman sublime, Le rivage des Sirtes, sur cette frontière dont on sait qu'il y a un pays ennemi derrière, il ne se passe rien, et on imagine le jour où l'ennemi déferlera chez soi. On imagine, l'ennemi devient presque une sorte d'entité rêvée, immatérielle, abstraite. Et c'est exactement le cas des relations entre l'Iran et Israël depuis la révolution de 1979. Jusqu'alors, c'était deux pays qui étaient globalement plutôt amis. Et à partir de là, c'est deux pays qui sont rentrés dans une situation d'inimitié totale, avec une absence de relations diplomatiques, avec des menaces de destruction d'Israël de la part de l'Iran, avec des attaques diplomatiques constantes de la part d'Israël envers l'Iran, mais jamais d'opérations militaires d'un territoire vers l'autre. Il y a eu cet épisode, l'ancien président d'Israël, Moshe Katsav, qui est originaire d'Iran, enfin une partie de sa famille, qui avait rencontré une fois dans une réunion un officiel iranien. Ils avaient un tout petit peu discuté de banalité, enfin de la météo en Iran, quoi. Et c'était déjà quelque chose qui était très spécial des deux côtés, parce que, si vous voulez, c'était un micro-semblant de dialogue entre ces deux pays. Avec en plus une autre chose, c'est que globalement, aujourd'hui, le régime iranien est en train de rentrer dans une escalade envers Israël. Ils sont quand même pas pour rien dans le scénario du 7 octobre, même si ensuite les choses les ont un peu dépassées. Et que la population iranienne, en revanche, commence à en avoir assez que la Palestine soit instrumentalisée comme une sorte de fétiche destinée à devenir le cache-sexe de toutes les répressions, de toutes les privations de droits civiques, politiques, économiques, etc. Et donc, ce qui s'est passé hier soir, c'est un événement doublement historique. Historique à l'échelle de l'histoire moderne. Hein. Depuis 50 ans, c'est la première fois que l'Iran agresse Israël et qu'il y a donc une perspective qui n'est pas irréaliste que Israël puisse agresser l'Iran en retour. Et c'est la première fois depuis 2500 ans que ces deux entités politiques sont dans un affrontement. Jamais l'ancêtre de l'Empire perse, l'Empire néo-babylonien, n'avait attaqué l'ancêtre de l'État d'Israël, l'État des Juifs de l'époque. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que ce qui s'est joué a été un événement qui déjà dans les têtes avait une portée historique absolument immense. Et je pense à titre personnel que l'image qui restera, c'est ce sont les drones iraniens survolant le Dôme du Rocher et la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, oui. Sur l'esplanade des mosquées ou le nom du temple selon les appellations, interceptés par les Israéliens avec l'appui de l'armée jordanienne, des Saoudiens, etc. Et ça, c'est quelque chose quand même de central.
Alors effectivement, vous parlez de l'appui de la Jordanie, il y a une situation diplomatique complexe. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'elle s'est aussi clarifiée. La question que je vous pose, Gabriel Cluzel, c'est est-ce que le monde a changé aujourd'hui? Puisqu'on a vu la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui ont participé à l'interception des missiles iraniens tirés sur Israël. Cela rappelle l'hostilité viscérale entre les chiites et les sunnites également. L'Iran, ennemi d'Israël, mais aussi du monde arabe. Est-ce que l'Iran est plus isolé que jamais? Est-ce que effectivement les choses se sont clarifiées aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Je pense que c'est extrêmement compliqué. Je suis pas la première à le dire. Hein. Il y a une citation célèbre sur le sujet. De fait, alors c'est, au-delà de l'opposition sunnite-chiite, il y a aussi l'opposition des Perses et des Arabes qui dépasse tout cela et qui fait que, de fait, un certain nombre de pays, parce que musulmans qu'on imaginerait proches de l'Iran, ne le sont pas tant que ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même les populations locales. La Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite peut apparaître l'allié d'Israël, mais sa population, en revanche, peut aussi avoir une sympathie ou une antipathie contre Israël, une sympathie pour la cause de Gaza et de ce fait soutenir plutôt la cause iranienne. Donc tout cela est extrêmement compliqué et quand même une ligne de crête. Vous avez raison de le dire, l'Iran semble isolé, mais il ne faudrait pas avoir une analyse trop manichéenne de ce sujet. Alors je vous ai entendu, Nathan, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de frontalisation entre Israël et l'Iran. Mais néanmoins, on sait très bien, c'est un secret de Polichinelle, que l'Iran a utilisé ce qu'on appelle communément des proxys, enfin a fait la guerre à Israël par personne interposée. Le Hezbollah, c'est une filiale de l'Iran. Le Hamas, c'est un allié, c'est un peu moins qu'une filiale de l'Iran, mais donc évidemment quand Israël est allé frapper, parce qu'on entend beaucoup depuis hier, mais c'est normal, l'Iran a riposté, mais en fait qui a riposté? C'est là le sujet, parce que en réalité Israël est allé chercher l'un des cerveaux quand il a frappé le consulat à Damas, le consulat iranien, un des cerveaux de celui qui a été identifié comme un des cerveaux, semble-t-il, du 7 octobre. En la personne du général, que je n'oublie pas son nom, Zaidi, c'est bien ça. Donc c'est vrai que qui a riposté à qui, ce serait quand même assez de mauvaise foi de prétendre que c'est l'Iran qui a été agressé et que donc il n'avait d'autre choix que...
une riposte, c'est ce qu'on
exactement.
On va écouter Benny Gantz, membre du comité de guerre israélien, sur la question de la riposte. Je vous la pose dans un instant, Elliot Mahaman. Écoutez Benny Gantz.
Face à la menace iranienne, nous mettrons en place une coalition régionale et ferons payer le prix à l'Iran de la manière et au moment qui nous conviennent. Et surtout, face à la volonté de nos ennemis de nous nuire, nous continuerons à nous unir et à devenir plus forts.
On a vu les États-Unis, la France, les membres du G7 appeler à une désescalade. Il y a une inquiétude pour la stabilité de la région. D'après vous, quelles sont les différentes hypothèses qui s'ouvrent aujourd'hui pour Israël ?
Alors d'abord, de manière générale, je remarque tout de même que le renseignement américain en début d'année est particulièrement efficace. Il a prédit à l'international un certain nombre de menaces, avec le risque d'ailleurs que, à terme, la parole du renseignement américain devienne performative de manière délétère. Mais simplement, on peut tout de même saluer, en l'occurrence, le travail qui a été fait par le renseignement américain. Sur les diverses options, c'est vrai que c'est compliqué parce que la communauté internationale, comme on l'appelle, est plutôt divisée. Emmanuel Macron, malgré de nombreuses réserves qu'il a exprimées, et notamment Stéphane Séjourné qui évoquait tout à l'heure dans une interview le fait que l'intervention française hier soir s'expliquait surtout par la sauvegarde d'une alliance avec des pays arabes, etc., pour ne pas dire qu'en réalité il s'agissait quand même un peu de sauver Israël. Mais Emmanuel Macron, ce matin, a tweeté qu'il condamnait l'attaque perpétré par l'Iran, ce qui implique tout de même, si on parle d'attaque, qu'il s'agissait en effet d'une déclaration unilatérale qui n'était pas nécessairement une réponse de légitime défense, contrairement d'ailleurs à ce que l'Iran prétend, puisqu'ils ont expliqué que désormais tout est fini, conformément au droit international, ils avaient simplement riposté et qu'il s'agissait désormais de clore le dossier. Mais évidemment, personne n'est tout à fait d'accord avec cela. En réalité, la question est de savoir comment va se servir Israël de sa possibilité de riposte pour négocier un peu avec son allié américain. Alors évidemment, allié ne veut pas dire soumis. Les États-Unis ne dictent pas à Israël sa politique diplomatique, mais ils représentent tout de même un appui stratégique de poids. Et donc, est-ce que Israël pourrait dire, alors on va un peu se calmer sur l'Iran et en profiter en revanche pour faire l'opération que l'on veut faire à Rafah? Ça peut être une option. S'ils décident d'attaquer l'Iran, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils vont se retrouver également avec l'un des proxys que Gabriel Cluzel vient d'évoquer iranien, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, qui pourrait se mettre à attaquer Israël. Donc ça veut dire que si Israël veut attaquer l'Iran, ils doivent d'abord neutraliser les forces de frappe du Hezbollah au Liban. Donc c'est ça qui est extrêmement compliqué. Je crois assez modérément à une réponse massive qui viserait l'Iran comme l'Iran a visé Israël, si vous voulez.
Oui.
En revanche, est-ce qu'il pourrait y avoir des frappes sur des positions militaires encore plus stratégiques pour l'Iran que ce que l'on a vu jusqu'à présent? C'est possible. Et ce qui est certain, c'est que John Kirby, qui est le conseiller spécial de la Maison-Blanche en matière de défense, a clairement dit que le rôle des États-Unis dans l'affaire était d'être derrière Israël. Donc, a priori, ils ont quand même une marge de manœuvre assez large, bien que, évidemment, il faille ménager l'un des derniers.
Alors, c'est vrai que le général Bruno Clermont, effectivement, parlait de cette hypothèse d'une attaque aérienne sur le territoire iranien. C'était tout à fait possible, mais avec un paramètre à prendre en compte, celui de la population. Parce que du côté iranien, c'est vrai que des scènes de liesse, des scènes de joie ont été filmées pour saluer l'attaque. Néanmoins, Mona Jafarian, elle est cofondatrice du collectif Femmes franco-iraniennes, pardonnez-moi, qui porte la voix du peuple iranien en France et qui s'oppose au régime des Mollahs. Et elle soulignait que ce n'était pas toute la population qui se réjouissait de cette attaque, et loin de là, hein, à en croire son témoignage cet après-midi sur notre antenne. Écoutez.
Les scènes de liesse, il n'y en a pas eu. Il y a eu quelques centaines de miliciens du régime qui ont été regroupés pour donner l'impression que. Par contre, il y a eu de fortes protestations contre ces attaques sur les réseaux sociaux, sur les réseaux internes, sur Telegram, du peuple iranien. Une énorme solidarité qui a été montrée au peuple israélien. Il faut savoir que, contrairement à l'image peut-être que les gens ont en Occident du peuple iranien, l'amitié entre le peuple juif et le peuple perse a 3000 ans d'histoire. Mmh. Et c'est une amitié qui est intacte. Les Iraniens appellent aujourd'hui la République islamique un régime colonisateur. Donc c'est vrai que nous, on est particulièrement bouleversé quand on voit ici des gens dire c'est normal, c'est une riposte à l'attaque de Damas, alors que par exemple quand il y a eu la frappe sur Damas, le peuple iranien a célébré. Le hashtag Israël nous te remercions était en tête des hashtags sur les réseaux sociaux lancés par le peuple iranien. Donc c'est quand même, et c'est vrai que nous quand on voit des images, on sait comment est menée la propagande du régime. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui sont aussi ramenées de Syrie, d'Afghanistan, etc. pour faire remplir les stades, remplir la foule. Et il est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir porter cette voix du peuple iranien, qui est vraiment le premier ennemi de la République islamique. Et c'était le signe d'un régime aux abois qu'on a vu hier.
Alors c'est vrai qu'il est, comme il est difficile de quantifier le soutien de la population jordanienne à la posture diplomatique de ses dirigeants, vous l'avez souligné tout à l'heure Gabriel, là aussi il est difficile de quantifier l'opposition, de quantifier le nombre de personnes finalement qui s'opposent au régime iranien. Néanmoins ils sont nombreux et on le voit depuis 2023 avec cette révolution des femmes, mais c'est un élément à prendre en compte aussi cette réalité pour Israël.
Oui, alors quand même, selon les études, on sait qu'il y a à peu près, en Iran, 25% des gens qui soutiennent le régime. C'est rien, c'est très clair. Et que la révolution qui est menée de manière héroïque par les femmes, puis par les civils en Iran, est réprimée dans des conditions tellement catastrophiques que, évidemment, le régime finit par l'emporter, en tout cas, c'est-à-dire par résister à ses aspirations à la révolte. Moi, j'avais rencontré moi-même, il n'y a pas très longtemps, une femme qui était arrivée en France à l'âge de 20 ans, sa meilleure amie ayant été violée, brûlée vive par des gardiens de la Révolution parce qu'elle avait fait une sorte de blocus dans une université. Donc le régime iranien est en situation, mais vraiment je dis une banalité, de fragilité extrême. Maintenant, si on réfléchit aux intérêts d'Israël, les intérêts d'Israël ne sont pas nécessairement de frapper tout de suite, immédiatement, le régime iranien. Parce qu'à long terme, pour les intérêts israéliens et américains, d'ailleurs qui convergent sur la question, c'est de faire en sorte que dans la région, il y ait une nouvelle carte du Moyen-Orient, où vous ayez un certain nombre d'États qui puissent concrétiser leur alliance avec Israël, et je pense surtout aux Saoudiens, et ils ne le feront que si il y a un ennemi commun, à savoir l'Iran. Donc si l'Iran se mettait à changer de régime et que vous aviez une sorte de nouveau chat, un type très sympathique envers Washington et Tel Aviv, donc si vous voulez, les Saoudiens n'auraient plus aucun intérêt, et pas que les Saoudiens d'ailleurs, à devenir vraiment, à renforcer leur amitié envers Israël. Donc je pense que ça, c'est plutôt à long terme, je me trompe peut-être, je ne veux pas jouer au devin, mais qu'à mon avis, l'attaque vis-à-vis de l'Iran, ça se fera, d'abord, à mon avis, ça ne se fera pas de manière frontale, ça se fera en soutenant les gens qui, de l'intérieur, résiste déjà au régime iranien. Et Gilles Kepel rappelait hier, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'opérations vraisemblablement du Mossad qui montraient quand même qu'ils avaient beaucoup d'alliés locaux en Iran quand ils ont tué des gens qui travaillaient dans les projets atomiques. Et deuxièmement, je pense quand même qu'Israël, depuis plusieurs mois, est dans une situation où les bombardements quotidiens ou quasi quotidiens massifs du Hezbollah depuis le Liban font qu'Israël songe à une riposte Liban. Et que, évidemment, là, à mon avis, c'est plutôt dans les perspectives de riposte s'attaquer au Hezbollah libanais, qui est la perspective à laquelle Israël pense le plus.
Le Liban, on va entendre dans un instant Fouad Zmokol, qui est doyen de l'université Saint-Joseph, qui s'exprimait sur notre antenne aujourd'hui, mais sur la question de l'Iran. Vous vouliez ajouter, Eliott Maman, un élément.
Je suis entièrement d'accord avec ce que Nathan Dever vient de dire. Il semble qu'une majorité de la population ne soit pas pro-régime en Iran. Par ailleurs, il est vrai qu'on a vu ces scènes de liesse qui étaient diffusées, mais il ne faut pas oublier que l'on parle d'un État totalitaire où les réseaux sociaux occidentaux sont censurés, ce qui veut dire que la parole que l'on voit sortir d'Iran est celle que le régime veut bien nous faire voir. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est en définitive. Et par ailleurs, je pense en effet que, vous savez, l'Iran et Israël se font régulièrement des sortes de cyberattaques ciblées mutuelles. Alors est-ce que Israël pourrait décider, plutôt que de cibler directement l'Iran, de faire une cyberattaque d'ampleur? C'est une possibilité. Et je rejoins en effet l'analyse de Nathan Dever. Le plus probable, à mon avis, c'est que Israël se serve de ce contexte pour attaquer Rafah, comme je l'ai dit, mais également, enfin, et il le réclame depuis longtemps, faire reculer le Hezbollah par-delà la frontière que forme le fleuve Litani. Vu que vous savez, une vingtaine de kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban, il y a un fleuve qui forme comme une frontière naturelle. Une résolution de l'ONU depuis une dizaine d'années prévoit que le Hezbollah n'aille pas au-delà, donc c'est-à-dire ne s'approche pas de la frontière israélienne plus près que ce que ce fleuve indique. Et pourtant, à l'heure actuelle, le Hezbollah est clairement à deux pas d'Israël. Donc ça pourrait aussi être un moyen pour Israël de faire reculer, voire même d'anéantir le Hezbollah.
Nous allons revenir dans un instant sur les conséquences aussi sur le territoire français, puisque Gérald Darmanin l'a annoncé, les les lieux de culte vont être protégés, les lieux de culte juifs vont être protégés donc à partir de demain. Peut-être, Gabriel Cluzel, sur ce témoignage que nous avons entendu à l'instant, cela met la lumière aussi sur la condition de ces femmes. On en a assez peu parlé finalement aussi, et ça nous dit le combat de ces femmes en Iran pour enlever leur voile, pour retrouver la liberté, et ce conflit permet aussi de faire la lumière. On en parle assez peu en France. Hein,
Oui, on en parle assez peu parce que ça ne rentre pas dans le narratif imposé du féminisme, puisque aujourd'hui on tendrait à vouloir dire que le voile soit est un objet anodin à minima, et pour certains même que ce serait une forme de libération, puisque chacun pourrait se vêtir comme il le souhaite. On voit bien que c'est loin d'être un colifichet anodin vu du point de vue des femmes iraniennes. Moi, je remarque qu'on n'a pas vu, aujourd'hui tout le monde se rend compte du danger iranien, mais on ne l'a pas vu. Même la France a lâché à l'époque le Shah d'Iran avec bien volontiers, hein, avec un accueil de l'ayatollah Khomeini. Enfin, et aujourd'hui, on ouvre des grands yeux. Alors, il faut faire attention parce que il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. La molacratie, elle est peut-être la molacture, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, elle n'est peut-être pas en si mauvais état que nous voudrions bien le croire. Et sans doute que derrière le 7 octobre, il y avait aussi une volonté de faire de la cohésion négative avec Israël. Il y avait la volonté de mettre un terme aux accords d'Abraham, mais aussi de retrouver un ennemi commun qui permettrait de recoller les morceaux avec tous ces pays arabes qui précisément, en tout cas sur le plan des populations, n'avaient pas beaucoup d'aménité à l'endroit d'Israël. Donc, pour la faire courte, l'Iran cherchait aussi à le régime iranien à se refaire la cerise à cette occasion-là. Donc, il n'est pas évident qu'il soit aussi fragilisé, mais vous avez raison, il faut rendre hommage à ces femmes qui peut-être par leur courage et leur courage méconnu en Occident, parce qu'il met mal à l'aise une certaine gauche, viendront à bout de ce régime. Et pour terminer aussi parce qu'on en parle assez peu sur la question américaine, vous vous souvenez que Trump en 2020 avait peu ou prou usé de la même méthode qu'Israël à l'endroit du général Soleimani, qui était lui aussi une figure des gardiens de la révolution, d'Al-Quds, etc. Et avec une frappe ciblée. Et à l'époque, l'Iran avait dit « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Et finalement, il ne s'était pas passé grand-chose. Ouais. Fin de l'exercice. Donc, on ne sait pas très bien l'issue de tout ça. Peut-être qu'il ne se passera rien, finalement.
Et peut-être qu'effectivement, une autre attaque aussi, c'est une hypothèse qui est évoquée également ces dernières heures. Peut-être un mot sur le Liban. Vous l'évoquiez à l'instant, Nathan. Je vous propose d'écouter Fouad Zmokol, doyen de l'université Saint-Joseph, qui témoignait aujourd'hui sur notre antenne, puisque dès hier soir, l'inquiétude était particulièrement forte au Liban. Écoutez-le.
Nous avons une expérience des conflits et nous savons que d'habitude dans les conflits, la première chose qui se passe, c'est qu'on a des attaques de l'aéroport, des attaques des centrales d'électricité et des coupures de courant et d'essence. Donc les gens se sont rués et nous avons une panique assez connue, je dirais, au Liban. Mais la panique s'est vite dissipée lorsque nous avons compris que ce qui se passait réellement, c'est des messages directs et indirects entre les protagonistes de la région et les protagonistes mondiaux. Donc vers 3h du matin, heure locale, nous avons bien compris finalement que la plupart des missiles et des drones ont été directement interceptés et que c'était, je vais dire entre guillemets, un jeu entre ces puissances. Chaque côté, du côté iranien, je suppose qu'ils devaient donner une réponse à leur audience, qui sont prêts à la riposte et d'envoyer des drones et des missiles. Côté israélien, on voulu montrer aussi à leur audience la suprématie qu'ils ont au niveau aérien, et on a rapidement tourné la page. Alors, je peux vous assurer qu'au niveau population libanaise, économie libanaise, nous ne voulons pas faire partie de ce conflit. Nous le faisons depuis le 7 octobre, malheureusement, à contre-cœur.
Fouad Zmokol, qui s'exprimait également hier sur notre antenne, Nathan Dever, c'était l'inquiétude, un peu plus de soulagement au fond aujourd'hui, mais le Liban contraint malgré lui de faire partie du conflit, hein, c'est ce qu'on comprend aussi.
Bien sûr, mais on peut avoir aussi une peine importante vis-à-vis des populations libanaises qui sont dans une situation tellement tragique. Le Liban a été un si grand pays, et le reste à sa manière, c'est-à-dire que dans chaque tragédie que le Liban peut connaître, et Dieu sait qu'ils en connaissent accumulées les unes aux autres, qu'il s'agisse d'explosions de ports, qu'il s'agisse d'une crise économique terrible, d'un blocage politique abject, d'une sorte de risque permanent de guerre civile, la population au Liban garde une sorte de résilience, de dignité, de grandeur qui force l'admiration. Et les Libanais disent clairement, hein, depuis le 7 octobre, bien avant d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas de cette guerre. Alors ils le disent, il n'empêche que, évidemment, le Hezbollah a pris de plus en plus d'importance au Liban, qu'il tient même une partie de la capitale, en tout cas qu'il a une influence importante au sein de la capitale, que ses responsabilités dans l'explosion du port de Beyrouth, qui nous avait tous choqués, ne sont pas encore totalement à 100% établies et précisées, mais enfin qu'elles sont très largement soupçonnées. Bon, et que donc les Libanais se retrouvent pris, si vous voulez, entre le marteau et l'enclume. Mais j'aimerais juste revenir sur ce que disait Gabriel tout à l'heure. C'est que, bon, pour ma part, étant de gauche, mais d'une gauche qui n'est pas dogmatique ou aveugle au réel, je suis d'accord avec vous pour saluer le courage héroïque, mais vraiment extraordinaire, des femmes iraniennes qui ont retiré le voile. Mmh. Et je dis d'autant plus que, pour ma part, quand il s'agit d'un pays comme la France qui autorise aux femmes le fait de porter ou de ne pas porter le voile, je ne suis pas du tout partisan, si vous voulez. Enfin, j'estime qu'une femme doit avoir la liberté de choisir la manière dont elle s'habille. Et que précisément en Iran, ce qui se joue depuis 50 ans, c'est une théocratie qui empêche aux femmes le fait de pouvoir s'habiller librement. Et que les femmes qui, depuis quelques mois, quelques années, ont défié héroïquement le régime en se faisant arrêter, en se faisant tuer, en se faisant violer dans des geôles, en se faisant parfois brûler vives, je le citais, vraiment, doivent forcer notre admiration. Et qu'en effet, côté français, il y a eu une forme de, souvent, de lâcheté, hein, de timidité dans le soutien. Globalement, personne n'a dit
que c'est pas bien ce qu'elle faisait,
mais un peu, voilà, une forme de silenciation, comme on dit aujourd'hui, de leur combat. Je recommanderais le roman d'Abnous Salmani, « J'ai péché, péché dans le plaisir », un hommage à la poétesse Farouk Farrokhzad, poétesse iranienne des années 50, précisément sur ce sujet-là, qui est sorti il y a quelques mois, et qui parle du fait que la culture iranienne, la culture persane, a été très longtemps, jusqu'à récemment, et le sera encore, je l'espère, une culture de liberté, d'exaltation d'une spiritualité qui passe à travers les corps, qui défie la loi, d'une poésie qui finalement est très très proche de la nôtre.
Concernant le rôle de la France à présent, Eliott Mahmad, vous l'évoquiez il y a un instant, la France, on le rappelle, qui a des bases en Jordanie, en Irak, nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme sur place. Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, est intervenu ce soir et il a expliqué que des moyens militaires, hier, des moyens militaires français ont été déployés pour neutraliser des drones. Écoutez-le.
Nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale. Nous avons des bases en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis notamment, et l'attaque iranienne ne mettait pas que en cause Israël, mais également porter atteinte à la sécurité de nos forces et violer l'espace aérien également de nos partenaires arabes, qui sont les Jordaniens et l'ensemble des pays arabes avec qui nous avons des accords. Et donc dans ce cadre-là, oui, nous avons agi en conséquence et nous avons participé à des actions d'interception notamment.
Des actions d'interception, ce qui n'a pas du tout plu à Gabriel Cluzel, d'ailleurs à la France Insoumise, on peut le noter ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réagi. Pourquoi est-ce Netanyahou, puisque Benjamin Netanyahou l'a annoncé, a annoncé l'action militaire de la France à ses côtés cette nuit, comment est-ce possible, sans accord de défense entre nos deux pays, il est temps d'admettre qu'en démocratie on ne peut accepter de voir son pays entraîné dans une guerre générale par la seule décision personnelle du président, s'il s'agissait de protéger les positions militaires françaises sur place, même si on est d'accord, le problème est désormais posé, jusqu'où irons-nous? Et dans quel but? Bref, voilà, effectivement, peut-être que du côté de l'exécutif, cette opération aurait pu être, comme les Britanniques l'ont fait, ils ont très vite confirmé leur participation. Ça n'a pas été forcément le cas de la France, qui l'a confirmé uniquement ce soir, sans rentrer dans les détails d'ailleurs.
Oui, on ne sent pas la France très, très à l'aise. Elle a soutenu sans soutenir, tout en soutenant. Mmh. Et c'est quand même, ça fait écho quand même à l'attitude hein, de notre gouvernement depuis le 7 octobre, mais pour une raison extrêmement simple qui a déjà été dite, c'est que il ne s'agit pas seulement d'une position diplomatique face à un conflit extérieur, mais ça a évidemment des répercussions chez nous. Hein. On sait que depuis le 7 octobre, citons par exemple Dominique Bernard, qui a été le premier mort du conflit entre Israël et le Hamas sur le sol français. Donc il y a évidemment cette peur de mettre le feu aux poudres. Alors on enveloppe ça, bon, c'est très joli, mais je crains que pour une fois ce soit simplement un manteau de Noé de l'idée que la France aurait sa partition singulière à jouer. Le problème, c'est qu'elle est de moins en moins singulière, sa partition, et que la France la joue de moins en moins. Parce que ça pourrait être audible, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. La vérité, c'est tout simplement cette peur d'embrasement intérieur. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que la France insoumise est le pyromane qui pourrait faire craquer l'étincelle. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point, pour des raisons purement électoraliste, hein, on voit bien très, très bien à qui Jean-Luc Mélenchon s'adresse. D'ailleurs, il y a une députée de la France Insoumise qui a aussi renvoyé dos à dos comme deux théocraties, l'Iran et Israël. Alors revenons sur la condition des femmes, hein, on va leur demander où elles préfèrent vivre, hein, de façon générale. Bon, donc cette envie cynique de mettre le feu aux poudres qui est dans le cœur de la France insoumise. Je ne vois pas d'autre solution.
Et effectivement, cette attaque iranienne qui a déjà des conséquences très concrètes sur le territoire français, puisque quelques minutes après l'annonce de Stéphane Séjourné, donc le ministre des Affaires étrangères, qui admet que la France a participé à l'opération hier de défense du territoire israélien, eh bien, Gérald Darmanin a annoncé la protection des lieux de culte de confession juive dans les heures qui viennent, à l'approche de la fête juive de Pessah. Et compte tenu du contexte international, j'ai donné instruction au préfet de renforcer significativement la sécurité des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs, en particulier les synagogues et les écoles confessionnelles. On voit bien qu'il y a des tensions aussi en France. Hein,
oui, absolument. On voit que la politique diplomatique est toujours avant tout une affaire de tensions nationales. C'est le cas en France, c'est également le cas aux États-Unis. Juste un mot sur la rhétorique de la France insoumise, qui me semble d'autant plus insupportable qu'elle se cache depuis hier derrière un vertueux pacifisme qu'ils mettent en avant en disant non mais simplement il faut juste prévenir tous les risques d'escalade, etc. Seul RCI Assoudé, comme vous l'avez dit, est allé plus en avant en ciblant assez directement Israël dans des comparaisons qui sont véritablement absurdes. Mais donc je remarque qu'en plus ils essayent de se cacher derrière une vertu qui n'a pas lieu d'être. Et par ailleurs, on voit bien qu'en effet, de manière générale, les questions diplomatiques en Occident sont dictées par des franges démographiques de la population qui parfois ont plus de mal à s'unir derrière une forme de cohérence nationale. On sait par exemple que la position de Joe Biden est très directement dépendante de la possibilité ou non pour le candidat démocrate de remporter le Michigan, qui est un état pivot à l'élection présidentielle en novembre, sachant que des comtés très influents au Michigan et qui donc peuvent déterminer en réalité l'intégralité de l'élection présidentielle sont habités par, alors non pas d'ailleurs uniquement des populations musulmanes, parce qu'il y a beaucoup de populations musulmanes qui sont très bien intégrées aux États-Unis, mais en l'occurrence par des populations où une forme très spécifique et rigoriste de l'islam s'exprime. Juste vous donner un exemple, au Michigan, dans une des villes que pourtant les démocrates avaient salué pour son progrès, puisqu'il s'agit d'une des premières villes musulmanes du pays, le drapeau LGBT a été interdit il y a environ un an, par un maire que pourtant les démocrates ont contribué à faire élire. Donc on voit en effet quelles contradictions peuvent aussi survenir sur le front national, malgré des enjeux diplomatiques très importants.
Et en tout cas, les réactions politiques de la classe politique française ont été nombreuses tout au long de la journée. Je vous propose de faire le point avec Élodie Huchard.
D'abord, parmi les réactions officielles, celle du chef de l'État Emmanuel Macron, qui dit ceci sur les réseaux sociaux: « Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. Il exprime sa solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité. » Du côté du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, même son de cloche, il condamne fermement cette attaque. Il ajoute: « En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. Il réaffirme également l'attachement à la sécurité d'Israël et assure de sa solidarité. Des réactions bien éloignées de celles qu'on trouve du côté du groupe La France Insoumise. À noter par exemple la réaction d'Ersilia Soudeh qui dit ceci: Netanyahou a obtenu ce qu'il cherchait en assassinant un dirigeant iranien dans une ambassade en Syrie. Une guerre régionale est le seul moyen qu'il a trouvé pour assurer la survie politique de son gouvernement. Alma Dufour ajoute: Macronistes et alliés soutiennent de nouveau inconditionnellement Israël qui a attaqué le consulat iranien en Syrie, anticipant la riposte. Le piège se referme, son génocide peut continuer. Le régime iranien qui assassine son peuple en sortira renforcé auprès des pays du Sud.
Nous en parlions donc, Gabriel Cluzel, pas d'unité politique, en tout cas avec les réactions de la France insoumise. Je voulais vous montrer le tweet hier sur les réseaux sociaux de l'avocat Thibault de Montbrial. Vous voyez ce qu'il a écrit quelques minutes après l'annonce de l'attaque. L'attaque d'ampleur de l'Iran et ses alliés contre Israël aura nécessairement des conséquences importantes en Europe et en particulier en France. C'est un monde différent qui nous attend demain matin. Voilà ce qu'il disait hier, Thibault de Montbrial. Vous rejoignez c'est un constat pessimiste.
Non, mais il est, encore une fois, ce conflit est déjà là. C'est pas une prophétie, c'est un constat, c'est une réalité qui est là aujourd'hui. D'ailleurs, je m'étonne beaucoup que tous ceux qui ont promu l'immigration depuis des dizaines d'années ne se soient jamais dit. Alors qu'on applique le principe de précaution à tout, absolument tout, pour monter sur un tabouret pour attraper des pommes, ce ne soit pas dit, mais attention, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de prudence, faire venir des populations qui potentiellement importeront des situations inflammables qui sont déjà sur leur sol et en les faisant venir de façon massive. Moi, je vois que tous ceux qui, depuis des dizaines d'années, ont eu le mot antisémitisme à la bouche, en poussant des O et des A, ne se sont jamais dit « on va mettre en danger les Juifs en France ces importations de conflits massifs ». Mais on pourrait le dire d'autres conflits, du reste. Hein, quand vous voyez que nous avons fait venir des réfugiés afghans qui, aujourd'hui, prônant un islam rigoriste, s'attaquent à des coreligionnaires. Voilà, exactement, pour ne citer que cela. On voit bien que ce n'est pas parce que vous êtes un ennemi d'un taliban. Encore une fois, la diplomatie, ce n'est pas Gulli. Ce n'est pas parce que vous êtes un ennemi d'un taliban que vous êtes un méchant taliban, que vous êtes un gentil. Non, c'est peut-être que vous êtes un islamiste opposé au régime des talibans. Donc, faire venir tout ce monde-là sous couvert de la grande gentillesse, ça a été quand même une grave erreur. Et je pense qu'à l'aune de l'histoire, il y aura un certain nombre de nos politiques qui seront jugés très durement dans les décisions ou les non-décisions qu'ils ont prises.
Peut-être un dernier mot, Elliot Maman, pour clore le dossier. À l'ONU, Israël qui réclame toutes les sanctions possibles contre l'Iran. C'est l'ambassade israélienne qui a appelé ce soir le Conseil de sécurité à imposer donc toutes les sanctions possibles après cette attaque. Le Conseil doit agir, a lancé Gilad Erdan lors de cette réunion d'urgence du Conseil, appelant en particulier à imposer toutes les sanctions possibles, je le disais, contre l'Iran avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Peut-être aussi que la riposte pourra passer par des sanctions mises en place.
Écoutez, j'en serais très heureux, mais remarquons tout de même que l'ONU n'a pas joué un rôle particulièrement favorable à Israël depuis le début du conflit. Je rappelle que depuis le 7 octobre, de nombreuses propositions de résolution ont été votées par le Conseil de sécurité. Et s'il n'y avait pas eu les Américains pour mettre leur veto à des résolutions qui condamnaient les actions israéliennes à Gaza sans jamais rappeler ce qui s'était passé le 7 octobre à l'origine, ces résolutions auraient été adoptées. Donc je veux dire, il ne faut pas non plus voir dans l'ONU le vecteur de la résolution de l'intégralité de nos conflits. Maintenant, il y a peut-être une option encore, je ne suis pas du tout devin, donc je ne prétends pas savoir ce qui va se passer. Israël pourrait aussi se servir du moment pour faire un peu peur à l'Iran, si vous voulez. On a beaucoup fait le récit de la crainte des Israéliens dans les jours qui ont précédé l'attaque, puisqu'on savait que l'Iran préparait quelque chose, et donc il y avait une forme de tension assez relative, évidemment, mais tout de même présente auprès des Israéliens. Est-ce que Israël, en réponse, pourrait se dire, vu que de toute façon on ne va pas faire de frappe massive, on va quand même jouer un peu de cette ambiguïté pendant quelques jours pour mettre un peu des tensions, pousser l'ONU à agir? C'est une possibilité aussi. Donc ça s'inscrit peut-être dans ce contexte-là.
Et nous allons suivre tout cela, bien évidemment, dans les heures, les jours qui viennent sur notre antenne. Les conséquences donc de cette attaque de l'Iran hier soir, à suivre sur CNews. Il nous reste quelques minutes, peut-être avançons sur l'actualité, l'une des actualités de demain, la journée de lundi qui marquera les 5 ans du terrible incendie qui a marqué d'ailleurs tout le pays et bien au-delà, l'incendie de Notre-Dame de Paris. On se souvient tous de ces 10 images, on se souvient tous de où nous étions à ce moment-là, ce que nous faisions. Revoyons ce sujet d'archives réalisé le jour du drame, justement.
Le feu se serait déclaré autour de 18h50. Les flammes se propagent très vite et embrasent Notre-Dame de Paris. L'incendie aurait débuté dans les combles de la cathédrale. Très rapidement, d'immenses flammes se mettent à dévorer une partie de la toiture du bâtiment, sous les yeux des Parisiens. C'est ensuite la flèche de Notre-Dame qui s'effondre, au grand désarroi des spectateurs.
Ça nous faisait mal au cœur, c'était vraiment... je ne sais pas quand ils auront l'argent ou le temps pour recommencer à refaire tout ça. Et le plus dramatique, c'est quand on a vu la flèche se casser et tomber. Alors là, c'était vraiment le pire des drames à voir.
C'était vraiment très impressionnant. Et les flammes, surtout des flammes très, 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 très hautes. C'était vraiment un feu gigantesque. C'était vraiment impressionnant. J'étais vraiment triste de voir ce magnifique bâtiment qui partait en fumée. C'était vraiment horrible.
Les pompiers rapidement arrivés sur place tentent avec difficulté d'enrayer les flammes. Mais après plusieurs heures, l'édifice continue de brûler. Emmanuel Macron ainsi que différents représentants politiques se sont rendus sur place.
Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée.
Voilà, on se souvient tous de ces reportages, de ces images. Gabriel Cluzel, alors c'était il y a 5 ans. On peut saluer le travail incroyable des artisans qui se sont... qui ont réalisé des choses extraordinaires en 5 ans. Emmanuel Macron avait... promis de reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris en 5 ans. En tout cas, effectivement, ces images, on les a tous en tête et ça avait été particulièrement marquant.
Oui, moi, je me souviens que je suis venue en famille à Notre-Dame le soir, au moment où Notre-Dame brûlait, comme beaucoup de Parisiens, parce que j'ai été vraiment très, très émue par ce qui est arrivé. J'ai eu un moment de honte. Je me suis même dit, notre époque, alors que Notre-Dame a traversé les siècles, nous, on nous confie Notre-Dame et nous, notre époque n'a pas été capable de la conserver seulement à l'état. J'ai eu honte. Maintenant, je suis fière de voir qu'il existe encore des artisans français capables de la reconstruire. Et on a fait venir des arbres magnifiques de forêts. Les gens qui sont propriétaires de ces forêts doivent être très fiers. Moi, j'aurais été très fière à leur place. Et on a tout reconstruit à l'identique. C'est une façon de réparer cette faute. Moi, j'ai été très marquée parce que la couronne d'épines a failli disparaître. Je ne sais pas vous vous souvenez.
Avec le témoin, cet aumônier des pompiers de Paris, je crois, qui va récupérer.
Exactement. Et symboliquement, ça aurait été très, très, très difficile.
Et nous reviendrons demain.
J'ai eu un peu l'impression que c'était notre civilisation
Nous arrivons au terme de l'émission. Nous reviendrons demain sur cette date anniversaire, 15 avril 2009, quand Notre-Dame partait en fumée. Gabriel Cluzel, un grand merci. Nathan Devers, Elliot Mavan, merci à vous d'avoir décrypté l'actualité du jour. Une actualité qui continue. C'est Mickaël Dos Santos que vous retrouvez pour l'édition de la nuit dans un instant. Un grand merci à toutes les équipes techniques. Merci à Coralie de m'avoir aidé à préparer cette émission. À très vite sur CNews.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com